Françoise Gillin, avec votre invité ce matin, on va parler énergie.
Oui, Philippe Charlez est un expert de l'industrie pétrolière. Il est belge, mais il travaille chez Total à Paris. Il va souvent sur le terrain et il publie un ouvrage sur le pétrole et le gaz de schiste ou comment démystifier cette énergie dite non conventionnelle. Ce qui est sûr, c'est que l'arrivée du schiste a complètement changé les perspectives énergétiques mondiales.
On écoute votre invité, Françoise.
Philippe Charlez, bonjour.
Bonjour.
Les cartes mondiales de l'énergie sont visiblement en train de se redistribuer puisqu'on voit que ce n'est plus l'Arabie Saoudite qui domine le monde du pétrole, qui est le premier producteur. Ce sont les États-Unis qui sont passés devant. Qu'est-ce qui explique cette révolution ?
Donc effectivement, les États-Unis sont devenus depuis peu premier producteur de pétrole et sont aussi devenus d'ailleurs premier producteur de gaz devant la Russie. C'est évidemment la révolution des pétroles et gaz de schiste qui explique ce changement complet de paradigme au niveau mondial. Il faut savoir que les États-Unis vont devenir très rapidement indépendants et même exportateurs de gaz. Ils sont quand même encore relativement loin de l'indépendance pétrolière. Cela étant, en 2000, les États-Unis importaient 75% du pétrole du Moyen-Orient. Et ce schéma va complètement s'inverser. Les États-Unis n'en importeront plus que 15%. Donc un changement complet de paradigme géopolitique au sens mondial de l'énergie.
Et ça, c'était vraiment pas prévisible.
Ça n'était pas vraiment prévisible et c'est vrai que beaucoup n'ont pas vu venir cette révolution qui s'est passée d'abord aux États-Unis et qui finalement n'a été très visible qu'à partir de 2009-2010 au niveau européen et mondial.
Est-ce qu'il n'y aura pas tout de même un coup d'arrêt dans cette révolution quand on voit le prix du baril qui descend quasiment à 80 $ le baril ou en dessous? Est-ce que l'exploitation du pétrole et du gaz de schiste sera encore rentable?
Alors on est descendu assez rapidement de 110 à 85 $ le baril aujourd'hui. Et c'est vrai que les coûts opératoires des pétroles de schiste qui se situent entre 60 et 70 $ le baril pourraient, pour un temps, ralentir les développements des pétroles et gaz de schiste aux États-Unis. Il faut toutefois savoir que l'industrie américaine est extrêmement adaptative dans la mesure où elle dispose d'une grosse partie des moyens pétroliers. Je voudrais citer par exemple que sur les 2500 appareils de forage dans le monde, il y en a 2000 qui opèrent aux États-Unis. Donc ça signifie que on peut effectivement observer une diminution temporaire de la production, mais cette diminution temporaire de la production fera remonter les prix et si les prix remontent, les États-Unis pourront très rapidement redémarrer l'activité.
Mais une autre question que tout le monde se pose, est-ce que cette exploitation d'énergie non conventionnelle, comme on dit, pétrole et gaz de schiste, n'est pas qu'un feu de paille ? Est-ce qu'il y a des réserves suffisantes pour en faire une véritable exploitation ?
Alors, si on s'en tient à nouveau à l'Amérique du Nord et aux États-Unis, les États-Unis ont une excellente connaissance de leur sous-sol. Il faut quand même savoir que depuis le début du XXe siècle, il y a environ 2 500 000 puits qui ont été forés aux États-Unis. Et donc, ça veut dire que quand ils ont commencé l'exploitation des pétroles et gaz de schiste, en fait, ils avaient une parfaite cartographie de où se trouvaient principalement les ressources. Une partie assez faible de ces ressources aujourd'hui a été exploitée. Et il y a de nouveaux champs géants comme le Marcellus ou l'Eagle Ford qui viennent remplacer des champs qui commencent, c'est vrai, à décliner un petit peu. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'à l'horizon 2035, la production des pétroles et gaz de schiste va continuer de croître. Donc, effectivement, ce ne sera pas un feu de paille, au moins à un horizon d'une vingtaine d'années.
Et comment l'opinion publique américaine réagit-elle par rapport à cette exploitation des gaz et pétroles de schiste? Vous savez que chez nous, en Europe, on y est complètement opposé, dans la majorité des cas.
Alors, l'opinion américaine est culturellement habituée à l'exploitation pétrolière et gazière. Et deuxièmement, elle voit quand même largement les bénéfices que cette révolution lui a apporté, à la fois en termes de coût de l'énergie, à la fois en termes d'emplois, 1,7 million d'emplois qui ont été créés, et pas dans la filière gazière et pétrolière, mais dans des filières tout à fait périphériques comme la pétrochimie, le verre, la sidérurgie ou le ciment. Et enfin, les États-Unis voient également qu'ils ont déplacé la fabrication d'électricité du charbon vers le gaz avec un bénéfice très net sur leur réduction de gaz à effet de serre qui ont été réduits de 15% au cours des 5 dernières années.
Alors on le voit, l'effet de cette révolution énergétique sur l'activité économique est importante, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des effets sur la nature? Vous savez qu'ici en Europe, on craint très fort la fracturation hydraulique, on dit qu'elle pollue les nappes phréatiques. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
Alors, donc d'abord, la fracturation hydraulique est une technologie mature puisque sa première application remonte à 1947, donc c'est quelque chose que l'on domine parfaitement dans l'industrie pétrolière. La deuxième chose, c'est que le fluide de fracturation contient essentiellement de l'eau, qu'il n'est pas du tout, comme on le dit, gorgé de produits chimiques, puisque les produits chimiques représentent moins de 1% du volume du fluide de fracturation. Il faut savoir que la fracturation hydraulique reste confinée à l'intérieur de la zone que l'on exploite, car la distance entre la zone exploitée et les nappes phréatiques est telle, hein, on parle de plusieurs milliers de mètres, que la fracture hydraulique ne peut jamais polluer la nappe phréatique via une remontée de la fracture hydraulique. La seule possibilité reste le problème dit d'intégrité de puits, donc c'est-à-dire qu'une petite fuite peut se passer via le puits, mais ce sont des phénomènes qui sont extrêmement rares et qui existent dans n'importe quel puits, qu'il soit conventionnel ou puits de gaz et pétrole de schiste.
Et vous-même, vous avez étudié à l'École Polytechnique de Mons avant de faire votre thèse sur cette fracturation hydraulique. Vous n'avez jamais craint la technique?
Non, j'ai jamais craint la technique, sinon je ne serais pas ingénieur. Je crois qu'effectivement aujourd'hui, la parole technique a parfois un peu de mal à être écoutée, mais je reste convaincu que c'est en faisant de la technique honnête et transparente que l'on pourra avancer et que l'on pourra finalement développer les gaz et pétrole de schiste en Europe.
Philippe Charles, je vous remercie. Bonne journée.
Merci à vous.
Philippe Charles qui publie avec Pascal Belloc « Gaz et pétrole de schiste en question ». C'est aux éditions Techniques à Paris, un ouvrage disponible en librairie. Belle matinée à notre écoute, il est 8h42.